issu d'une famille plutôt favorisée, il va faire des études de médecine, de pédiatrie. Mais en fait, lui, c'est pas tellement ça qui va l'intéresser. Lui, c'est plutôt vraiment du côté de l'éducation et de la pédagogie. Il va écrire de nombreux ouvrages très appréciés en Pologne, qui vont avoir un grand succès, comme par exemple le roi Matthias Ier, qui est un hommage à l'enfance. C'est lui, d'ailleurs, qui est à l'origine des droits de l'enfant. Et il va, de façon quotidienne, répondre à une émission de radio aux questions des parents. C'est un peu le François Dolto de l'époque. Il va être directeur de deux orphelinats. Il va créer sa République des enfants, avec son propre parlement, son propre tribunal. C'est-à-dire que même les adultes pouvaient être jugés. S'ils n'avaient pas fait le ménage alors qu'ils étaient engagés, ils étaient sanctionnés.
Du coup, dans ta conférence, tu parles beaucoup du travail de pédagogue social. Est-ce que tu pourrais dire ce que c'est pour toi ?
Un pédagogue social, c'est quelqu'un qui se réfère à la pédagogie sociale. C'est une personne qui est engagée, c'est aussi donc une philosophie de vie. Cette pédagogie n'est pas institutionnelle, donc elle n'est pas le fruit d'une école ou d'un expert, mais elle va se construire à travers le groupe, à travers les personnes. Voilà. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est en mutation selon les personnalités, selon les désirs.
Comment t'accompagnes les gens qui sont avec toi, les gens qui sont en service civique, les bénévoles et ainsi de suite, à ces pratiques?
Donc, ce sont le temps et les moyens. Si on est en service civique, en général, c'est 9 mois. Donc, il faut un temps d'adaptation, de découverte, d'observation. Mais en fait, on s'auto-éduque les uns les autres. En fait, c'est pas parce que moi, je fais ça depuis des années que je n'ai rien à apprendre de l'autre. Au contraire. Bien sûr qu'on se réfère à des courants théoriques qui est justement une richesse pour nous. Ensuite, que ce soit les bénévoles ou que ce soit des fois des habitants, des ados qui eux-mêmes vont venir régulièrement ces ateliers de rue, ils ont cette possibilité-là. Et donc, il n'y aurait pas un professionnalisme comme on peut peut-être le voir dans la pratique éducative courante. Mais par contre, il y a de l'analyse de pratique, c'est un travail de recherche-action aussi qui se fait.
Et si tu avais des conseils à donner à des éducateurs, à des profs, justement pour être plus proche du public, pour avoir plus d'horizontalité, qu'est-ce que ce serait ?
C'est sortir des murs, ça c'est sûr, et puis accepter cet imprévu, accepter cette rencontre-là, qui des fois peut paraître déstabilisante, qui vient questionner, mais qui est une grande richesse. C'est justement lutter contre les déterminismes sociaux. Ce que je pourrais dire en conseil, c'est regagner collectivement ce souffle de liberté.
Et au niveau des institutions à mettre en place, est-ce qu'il y a des difficultés ? Là, on a vu les conseils des présents, on a vu toute la créativité ou ces choses-là. Est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faudrait pas tomber ou des choses qui ont été difficiles ou qui ont été remaniées au fur et à mesure ?
Des fois, on a envie de baisser les bras. Il y a des fois où, bien sûr, les conditions sont très dures. Je pense des fois à la violence, mais en fait, la seule chose que m'a appris tout cela, c'est qu'il faut tenir dans la durée, tenir malgré des fois ce qui est un peu hostile, malgré des fois peut-être se dire ouais, on est précaire, on a peut-être moins de moyens, mais en fait c'est là où on est aussi très créatif. Les écueils, ça serait de tomber dans on sait tout et on n'aurait plus rien à apprendre ou pas se remettre en question. Chaque atelier est différent, chaque enfant arrive ou famille et avec une réalité et les choses sont justement possibles, mais par contre la durée est une aide.
Dans la pédagogie de Janusz Korczak, il y a également tout le tribunal pour enfants, la gestion des conflits. Est-ce que c'est des choses que vous êtes approprié en fait ? Comment ça se règle en fait les conflits quand il y a des enfants qui veulent se battre, quand l'émotion elle déborde ? Comment vous faites ? Sachant qu'il y a plein de cas différents.
Ouais. Alors quand il y a conflit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des accords et comme on le pense collectivement. Alors il y a le conseil, moi le seul moment où je vais reprendre, c'est quand on vient toucher quand il y a de la violence physique où là ils peuvent pas. Je dois asseoir ce cadre-là, mais je vais essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Après quand les enfants, je m'en rappelle au début il y avait beaucoup de salles arabes, salles roms, etc. Et je m'en rappelle les étudiants, les stagiaires, ils étaient un peu déstabilisés en disant mais il y a du racisme et tout. Mais tant mieux que ça s'exprime là, parce qu'en fait est-ce qu'à l'école ça va être travaillé. Voilà, donc c'est bien notre travail là de reprendre, de nourrir ça en disant t'as vu le petit copain rom, il danse aussi bien que toi la danse du ventre, donc tu vois bien qu'il y a des ressemblances, etc. Juste je voudrais insister ce que tu disais, le mot bénéficiaire. Moi je dis pas ce mot bénéficiaire parce que rien n'est un qui bénéficie et pas l'autre. Moi je bénéficie autant qu'eux. Donc nous on se dit pédagogues sociaux ou permanents de l'association, habitants, voilà, ça permet d'être un peu plus d'égalité. Et par contre, je dis les habitants, les enfants, les familles, voilà. Peut-être plus que ce mot bénéficiaire. Okay. Madame Rutabaga, on est Madame Rutabaga. Tout le monde, à partir du moment où tu viens d'atteler de rue, tu es Rutabaga, tu es, on appelle la Rutamafia un peu, parce qu'on est ce clan-là, on est cette famille-là, et en fait, on est.
Toi, si t'avais eu un adulte, enfin, que t'aurais aimé rencontrer quand t'étais enfant, parce qu'on a senti aussi que c'était difficile pour toi, toute cette pédagogie traditionnelle, qu'est-ce que t'aurais aimé rencontrer en étant gosse?
Je prends un exemple, je me souviens très bien, on avait un truc, j'aimais bien le collège, moi, et il y avait une consigne que sûrement j'avais pas dû écouter la consigne, et j'avais fait l'inverse. Moi, j'étais très fière de mon dessin, et je me souviens de m'être fait pourrir. Alors que j'ai trouvé ça génial. Et c'est ça, c'est-à-dire, ouvrir des possibles en fait dans la créativité. Moi, j'étais le truc qui me faisait kiffer, c'était d'écrire des pièces, de mettre en place ces pièces là je crois que j'avais besoin de comprendre pourquoi ce monde tournait comme ça, quoi, pourquoi il tournait pas rond en fait. Je vais prendre un exemple. À l'école, je me souviens très bien, on était peut-être en CM1 et on nous avait demandé conseil d'enfant, qu'est-ce qu'on aurait envie de proposer, et nous à l'époque il y avait beaucoup de SDF. Et à la cantine, on voyait bien qu'on mangeait vraiment pas beaucoup ce qu'ils nous proposaient, parce que c'était vraiment pas bon. Il y avait du gâchis, même des yaourts qui n'étaient pas ouverts. Et on avait dit, bah nous, on voudrait en fait proposer cette nourriture-là aux SDF. On nous avait dit non, catégoriquement. Même pas de la négociation, même pas essayer. C'est pas pour la raison était pour des raisons d'hygiène. Et à partir de ce moment-là, j'étais quand même jeune, mais je me dis en fait, on me prend vraiment pour une idiote, quoi.
Et à la fin des ateliers, alors je sais pas si c'est dans la conférence ou quelque chose que tu dis tout le temps. Faites des bêtises, soyez pas sages. C'est quelque chose que tu dis tout le temps ou c'était pour la conférence?
Non, j'aime bien dire aux enfants, parce que de toute façon, j'aime bien que ça soit pas des enfants dociles et ouais. Face aux adultes, j'aime bien quand les enfants me disent, je suis pas d'accord, j'ai fait une bêtise. Bah, c'est quoi une bêtise en fait? T'as le droit de. Et on demande des injonctions aux enfants. Je trouve que c'est cet exemple où ils devraient être toujours un peu sages. On a le droit de. Parce que moi, je suis adulte, j'en fais encore des bêtises.
Et c'est quoi du coup une bêtise?
C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une bonne question. Je crois que. Parce qu'il y aura toujours derrière le jugement de l'adulte en fait quand même. Après, comment ça serait plus au groupe et aux enfants de nous dire, nous apprendre. Je crois qu'il y a encore justement les enfants doivent. C'est une grande richesse. Ils ont encore plein de choses à nous apprendre, quoi. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que t'as des choses que t'aimerais transmettre là à nous qui avons travaillé sur Janusz Korczak pendant le week-end?
Bah moi Janusz, à chaque fois que je parle de lui, je suis toujours émue parce que je pense que ce qu'il a vécu, c'est toujours d'actualité. Je pense surtout aux familles roms qui vivent des situations qui on est, il y a quelque chose qui se rapproche de plus en plus de, d'un apartheid qui est d'une violence qui monte. Et je pense que justement voir la réalité telle qu'elle est et tenter quelque chose, quoi, de continuer à tenter quelque chose, quoi. Ouais, Janusz Korczak, c'est quelqu'un de tellement inspirant et chaque fois j'en ai l'émotion parce que voilà, il y a un souci de l'autre énorme en fait, hein, même et on dit souvent que c'est pas, on doit s'abaisser à l'enfant, donc nous bien sûr on est sur nos nattes au tapis de sol à la même hauteur que les enfants, mais je crois que c'est plutôt, il le dit très bien, c'est plutôt que l'adulte doit s'élever à l'enfant puis ne pas oublier l'enfant intérieur que nous étions, quoi. C'est cet enfant rebelle que moi j'étais, j'essaie de la maintenir, cet enfant et de la voir encore chez les autres. Je crois que ce que j'aime aussi, c'est voir ce potentiel possible. Il y en a, voir ces... Moi, des fois, je suis subjuguée par des ados, des gamins qui a un truc, une énergie vitale, en fait, encore, quoi. Moi, ce que je veux dire aussi, ce que j'aime dans cette pédagogie-là, c'est donc on appelle ça holistique, c'est-à-dire qu'on prend dans sa globalité l'autre psychiquement, spirituellement, émotionnellement, socialement. On le dissocie pas, on le découpe pas, cet être-là. On dit pas, toi t'es comme ci, t'es comme ça. Et je disais la phrase, nul n'est condamné à être ce qu'il semble être aujourd'hui. C'est aujourd'hui t'es ça. Aujourd'hui, t'as ces béquilles-là. Aujourd'hui, hop, c'est pas facile, mais dans peut-être 6 mois, 3 ans ou dans 10 ans, il y aura autre chose. Et c'est ce que j'ai envie d'être à tes côtés dans ces moments-là, si c'est possible.
Est-ce qu'il y a des projets particuliers pour Madame Rutabaga?
Pour Madame Rutabaga, il y a plein de choses, mais là, en ce moment, je suis avec l'association 3-2-1. On essaye de rassembler un livre autour de l'art en pratique de pédagogie sociale, un peu rassembler nos pratiques de l'art précaire, comme on le conçoit, le théoriser, mais en même temps parler de la réalité. L'envie que ça grossisse pour qu'on soit plus minoritaire et l'envie aussi que de plus en plus de gens sortent des, leurs murs et essayent une pratique différente, quoi.
Merci à toi.
Merci.
Et mon micro, tu l'aimes, mon micro ?
Oui.
Et mon casque, tu l'aimes, mon casque ?
Oui.
Et ma bonnette, tu l'aimes, ma bonnette ?
Oui.
Et ma voix, tu l'aimes, ma voix ?
Oui.
Vogel les mouettes, la radio pleine d'amour, avec des plumes autour.
On passe au mensonge. Oui, alors le mensonge, en fait, on s'est posé la question parce que Korczak a un petit peu cette mensuétude à l'égard du mensonge. Enfin, il a le droit au mensonge occasionnel chez l'enfant. Kaitek ment, Mathias ment, et ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Alors on s'est un peu posé la question de qu'est-ce qui était un mensonge, est-ce qu'il y avait différents niveaux de gravité.
Est-ce que dire que t'es, je peux te tutoyer ? Est-ce que dire que t'es toulonnais, c'est un mensonge ?
Là oui.
Non.
Ok.
Mais non.
Non.
T'es plus toulonnais que.
Non, je suis pas toulonnais. Je suis mazamétais, moi.
Non, je suis pas toulonnais. Pas du tout.
Alors, parce qu'en fait, ma question, elle porte sur le mensonge.
Qu'est-ce que
pour vous un mensonge ?
Un gros mensonge ou un petit mensonge ? Parce qu'il y a le gros mensonge et le petit mensonge.
De taille différente.
Donc pour moi, oui.
Ah bah non, un mensonge, c'est ne pas dire la vérité.
Le gros et le petit mensonge. Ça dépend.
Ça pose pas de problème nécessairement. Et des fois, c'est pas plus mal de mentir, on va dire.
Super.
Oui.
Bravo.
Ben oui. Tu me fais quoi, toi ?
Je mens pas, moi.
Tu mens pas ?
Non.
Je rentre pas trop tard, papa. 6h30 du matin, on t'attend.
Non. Je sors.
Ben
oui.
Ah là. Non, tu dis, je rentre pas tard.
Non. Ça dépend ta définition de tard.
Ah, ça n'est pas le mensonge en fait. Est-ce un mensonge ou est-ce plutôt autre chose ? Allez ma fille.
C'est pas de mensonge.
Si une personne, un jeune en l'occurrence en ACM, ment et que tu sais que c'est un mensonge, est-ce qu'il t'est possible de ne pas relever le mensonge ? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de mensonge, plusieurs niveaux de mensonge avec des mensonges qui seraient acceptables, d'autres qui seraient sur lesquels il faudrait être intransigeant ?
Il y a plusieurs degrés de mensonge ? Oui. Mais après, je pense que c'est vraiment relatif à beaucoup de choses. Bah, pourquoi l'enfant il a menti, sur quel sujet il a menti, à qui il a menti, et tout ça, ça va avoir un degré d'importance différent, quoi. Et ça peut engendrer des conséquences aussi qui peuvent être bénignes, comme peut-être avoir un réel impact, quoi. Si je sais que c'est un mensonge, je pense que je vais quand même avoir le besoin et la curiosité d'aller trouver l'enfant, que l'enfant soit capable de me dire pourquoi il a menti, si c'est pour se protéger, si c'est pour embellir quelque chose ou pour par pudeur, peut-être pour cacher quelque chose, comprendre d'où ça vient.
C'est quand quelqu'un dit quelque chose dont il est convaincu que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Enfin, comme plein de choses, ça dépend de la finalité, je pense. Enfin, à la fois de la finalité et à la fois des effets que ça a. Parce que il peut y avoir un mensonge qui est fait de manière pour rire, par exemple, faire une blague, mais qui au final va pouvoir heurter violemment quelqu'un. Même si l'intention est bonne, il faut réfléchir quand même aux conséquences de ses actes.
Un mensonge, c'est prendre un risque. Dire un mensonge, c'est prendre un risque.
Mais en même temps, dire quelque chose, c'est prendre un risque, peut-être aussi. Voilà. Je sais pas s'il y a plus de risques à mentir que à dire la vérité ou. Enfin, je sais pas.
Il y a un risque, tout est dangereux.
Non, ouais, peut-être. Je sais pas. Non, peut-être que mentir est un peu plus dangereux quand même, mais je suis pas sûr.
Donc soyons prudents.
Extrait 3.
Je demande à ce que le portail en bas soit fermé en permanence à partir de demain. Il va falloir murer toutes les fenêtres qui donnent sur la rue. Ils nous ont coupé du monde par un mur. Nous allons nous couper d'eux. Et les enfants ne devront plus sortir seuls dans la rue. Il faut les protéger de ce qui se passe.
Mais c'est impossible.
Nous allons accomplir l'impossible.
Extrait 4. Maman, pourquoi je suis venue ici ? Et elle est seule là-bas, sans moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Ta mère est morte tranquille, te sachant chez moi. Du coup, les deux
extraits de, du film qu'on vient d'entendre. Donc, le premier se passe à l'orphelinat, une discussion entre les adultes où Janusz Korczak explique à son équipe qui décide d'isoler l'orphelinat du reste. Et on a voulu la mettre en relation avec une autre séquence où un enfant parle de la mort de sa mère. Et là, Janusz Korczak lui dit la vérité sur le fait qu'elle est morte et que c'est pour ça qu'il est là, etc. Et on a trouvé intéressant de mettre en relation ces deux séquences puisque ça montre la volonté plutôt de Janusz Korczak de dire la vérité aux enfants, et c'est quelque chose qui se retrouvait dans plusieurs de ses travaux et qu'on a revu à plusieurs moments dans le week-end. Mais en même temps, la première séquence qu'on a vue où c'est dans le ghetto de Varsovie où il décide d'isoler l'orphelinat du reste du ghetto pour justement que les enfants ne voient pas l'horreur de l'extérieur, montre que face à la situation qui devenait dramatique, finalement ce principe de dire la vérité aux enfants, de leur faire voir le monde tel qu'il est vraiment et non pas de les faire vivre dans l'imaginaire, il rompt un peu avec ce principe quand la réalité devient trop violente et qui veut quand même préserver l'intégrité des enfants. Et donc ça entre en relation avec plein de questions qu'on peut se poser nous dans l'animation sur qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire aux enfants, que ce soit sur des choses violentes comme la mort, des choses comme ça, ou même sur plein d'autres sujets. Est-ce qu'on doit leur parler de sujets qui sont considérés comme des sujets d'adultes, que ce soit la sexualité, la politique, la maladie, plein de trucs. Et c'est des questions qu'on a souvent, et où mettre la barrière à comment préserver leur intégrité et comment en même temps les traiter comme des aides sociaux.
Puis je trouve qu'aussi on avait choisi effectivement ces deux extraits un peu en opposition parce que je trouve qu'on touche du doigt le sujet de la cohérence du pédagogue, en fait, et où à chaque fois on s'oppose à ce qu'on voudrait mettre en place et comment on voudrait considérer l'enfant et ce qu'on est en capacité d'accepter. Et donc effectivement voilà, sur cette ambiguïté où effectivement dans l'extrait où Korczak recueille cet enfant dont la mère vient de mourir, où il est très brutal, mais parce que la situation est, parce que l'événement est brutal, et donc il ne cache pas à l'enfant que effectivement sa mère est morte. Et en même temps, sur l'extrait où effectivement il décide avec son équipe de murer les fenêtres de l'orphelinat, où il y a un peu une idée de préserver, de protéger l'enfance d'une horreur qui est en train de se jouer sous leurs yeux. Pendant que tu parlais, effectivement, là, il y a un extrait du film dont on n'a pas parlé, je sais pas si tu t'en souviens, où en fait un enfant se réveille dans la nuit, en pleurs, et en fait, il entend des coups de feu, et il dit au docteur, est-ce qu'il y a eu des coups de feu? Et Korczak dit, non, c'est pas des coups de feu, rendors-toi. Je trouve que là, on touche du doigt un peu le dilemme et en même temps le charbon du pédagogue, où c'est... quand est-ce que je remets en question ce que j'aimerais mettre en place et où est-ce que mon incohérence ou ma cohérence se positionne et où est-ce que je la repositionne en fait en fonction de à quoi je me confronte au quotidien dans ma pratique.
Alors je voulais écrire une petite lettre à Korczak. Il est des hommes et des femmes qui se terrent quand gronde la guerre et la misère. Il y a ceux qui s'écroulent quand l'ennemi déboule et déroule. D'autres qui fuient face à l'ennemi. Sans compter les lâches qui abdiquent sans panache. Il y en a même des qui abandonnent sans une once de vergogne. En suis-je? Peut-être. Si je ne l'espère pas, comment puis-je en être sûr? Je voudrais être de ceux qui font la chenille quand ce sont des grenades qu'on dégoupille. Un homme qui prend soin des plantes, toisant le barbare avec une mine insolente. Quelqu'un qui fait disparaître les orages, et qui par une berceuse parlée, soulage. Pour maintenir une humanité dans le carnage. Quelqu'un qui sait que la solution n'est ni d'être docile, ni d'être sage. Quelqu'un qui pense que la volonté prendra le pas sur tous les déterminismes. Qu'il n'existe aucun sous-métier, et dont l'humour n'a d'égal que son optimisme. Quelqu'un qui tient encore la main quand s'en va le petit train. Loin de vouloir être toi, tu m'inspires pourtant. Merci Janusz, à bientôt Korczak.
pour clôturer cette émission et pour clôturer un peu ces longs temps d'échange consacrés à Janusz Korczak, le pédagogue polonais qui a inclus les enfants au sein de la dimension et des décisions citoyennes, sociales et voire politiques. Je tiens à remercier Stéphanie pour la régie, pour toute l'organisation de ce week-end et pour avoir permis cette émission, mais aussi Quentin. Bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe. Je nommerai pas parce que ça fait beaucoup de monde. Et puis un petit clin d'œil, merci à Elsa de l'association Étoiles et Compagnie. Merci à Mélodie de l'association Rue Tabaga. Merci à Laetitia, des ACM, qui met en pratique les belles valeurs transmises par Janusz Korczak. Et merci à tous et à bientôt.
Cette émission a été réalisée grâce aux moyens techniques de la web radio douarneniste Vogel les Mouettes. Coordination des contenus et du séminaire, Quentin Giraud. Coordination radio, technique et montage, Stéphanie Pierry. Avec la participation, par ordre alphabétique, de Simon Boloz, Gilles Dabinard, Jean-Luc Bourseguin, Lisa Brengues, Jean-Pierre Deras, Marion Filiol, Paul Garcia, Adeline Gargouille, Nicolas S., Franck Ischk, Didier Lecoq, Thibaut Riolan, ainsi que Delsa Saladin, Laetitia Rabé et Mélodie Dababi. Merci à toutes et tous.
Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants. Ils résument à eux seuls tous les droits des enfants.
Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre. La force de ces mots peut leur ouvrir un jour l'horizon de la paix, la tendresse et l'amour.
Ils sont là noir sur blanc, mais si tu peux les lire.